Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Cette question, on la pose facilement pour démarrer une conversation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça ne veut pas dire qu'est-ce que tu fais de tes loisirs, de ton temps libre, mais qu'est-ce que tu fais comme travail ? Le travail est central dans notre existence, mais ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Cette série, Le Travail un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout, va explorer dans 3 podcasts les différentes façons de voir le travail, entre ceux pour qui le travail c'est toute leur vie ou presque, ceux qui ont arrêté de travailler pour faire autre chose, et ceux qui essaient de concilier harmonieusement travail, passion et vie personnelle. Vous pouvez retrouver toutes ces thématiques autour du travail, mais plus globalement sur la quête de sens et le changement de vie, dans le magazine des Déviations qui sort en décembre. Un joli cadeau à mettre au pied du sapin pour vous ou pour vos proches.
Ah non, mais travaille pas, c'est grave. On a notre mentalité parce que nous, chez nous, le travail c'est sacré. Il faut travailler pour vivre, que n'importe la situation.
Dans ce premier épisode, vous allez entendre ceux pour qui le travail est essentiel. Qu'il soit choisi pour Valérie, directrice de laboratoire, ou subi pour Jamira, demandeur d'asile, et Anis, sans papier.
Salut Sophie.
Chaque matin, Valérie Renaudin arrive à son bureau et salue son équipe internationale.
How are you doing? You're going well? Did you try now to process some of your data?
Elle est directrice de recherche à l'université Gustave Eiffel et directrice du laboratoire géologue à Bouguenay, en banlieue de Nantes. Elle a un parcours professionnel à la fois industriel et académique sur 3 continents et 4 pays. Elle a 45 ans, 2 enfants de 12 et 15 ans.
Which one? The cutoff frequency or end? Do you get any interesting outcome?
Je suis quelqu'un qui suis scientifique dans l'âme. Mais avec une casquette aussi artistique. Je danse. J'ai été professeure de danse irlandaise pendant plusieurs années. Donc j'essaie de manier un petit peu tout pour rendre la vie plus sympa.
Quelles sont les valeurs et l'éducation que vous avez reçues autour du travail étant enfant ?
Moi, je suis fille de parents qui travaillent dans l'éducation nationale. Un papa professeur de mathématiques et une maman maîtresse des écoles. J'ai grandi dans un système franco-allemand. Parce qu'en fait, mes parents sont partis travailler dans le cadre des forces françaises d'occupation. Et donc, on vivait en Allemagne, mais dans des espèces d'enclos français. Autour du travail, j'avais des parents qui bossaient pas mal, très accrochés aux valeurs de l'éducation et de la pédagogie. Mes parents sortaient de familles très affectées par la Deuxième Guerre mondiale, avec des valeurs au travail qui sont importantes, parce qu'en fait, finalement, c'est une notion de survie, au sens où ma grand-mère, comme son mari est décédé, s'est retrouvée comme beaucoup de familles monoparentales avec des enfants en bas âge et pas de métier. Donc il a fallu qu'elle reprenne les études suite à la Deuxième Guerre pour pouvoir nourrir tout le monde en fait. Ma maman était aussi dans le même schéma. Donc moi, les valeurs qu'on m'a inculquées autour du travail, c'est des valeurs où on doit réussir par ses compétences. Et c'est important en fait pour survivre dans la société. Avec aussi des parents qui poussaient, je pense, indirectement à l'égalité homme-femme. Ce que je devais fournir moi en tant qu'enfant, en tant que fille, pour réussir, était même plus important que des schémas masculins. Exactement de la même manière, hérité à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, comme il n'y avait pas d'argent pour tout le monde, on avait tendance à privilégier des parcours masculins, donc les parcours féminins, il fallait qu'ils bataillent plus, en fait, pour arriver au même résultat.
Valérie Renaudin effectue sa scolarité en Allemagne, où elle est marquée par une certaine rigueur jusqu'au lycée. qu'elle intègre à Strasbourg avant d'entrer dans une classe préparatoire à une école d'ingénieurs du Conservatoire national des arts et métiers, l'école supérieure des géomètres et topographes.
Pendant cette période-là, le monde de la structuration politique de la société française avec les grands corps et ces étiquettes en fait, qu'on collait à des gens dans des formations post-bac avec des classes prépa et des concours, moi, me déplaisait complètement. Par rapport à ma diversité d'éducation, me semblait complètement aberrant, en fait. Et du coup, j'ai vite eu le sentiment que c'était pas par le biais d'une voie française que l'épanouissement rapide pouvait arriver, mais plutôt par un épanouissement international où potentiellement on allait casser ces étiquettes en fait, qu'on colle sur le front à des gens qui sortent avec un diplôme.
Elle part donc en Suisse pour faire son travail de fin d'études d'ingénieur et développe une innovation qui démocratise la mesure de précision et évite le recours systématique aux géomètres experts. La société qui l'héberge va créer une entreprise autour de cette innovation dont elle va partager la direction. Après des conflits judiciaires avec leur concurrente directe, Valérie Renaudin est écœurée. Elle décide de partir à l'École polytechnique fédérale de Lausanne pour faire de la recherche. Elle reprend donc des études pour effectuer une thèse pendant laquelle elle mettra au monde ses deux enfants. À la fin de sa thèse, elle reçoit une offre d'emploi à Calgary pour co-diriger un projet de recherche chez un des leaders mondiaux du positionnement par GPS.
Donc on est arrivé à Calgary, et là c'est complètement un autre monde du travail. Ça n'a encore une fois là, absolument plus rien à voir. On arrive dans un monde où ce qui compte, c'est l'efficacité professionnelle systématiquement. Donc on va mettre en place tout ce qu'il faut pour être efficace. Et c'est efficace potentiellement même au détriment de la vie privée. C'est-à-dire que la vie personnelle n'a aucune place sur la vie professionnelle. On ne mélange pas les deux. Et les Européens, on n'est absolument pas préparés à ça. Dans ce genre d'environnement, on peut vite se laisser complètement écraser par cette pression latente, en fait. Parce qu'elle est sans fin. Il n'y a pas de coupure facile à cette histoire, puisque même des instructions reçues le week-end doivent être exécutées pour le lundi, etc. Donc la plupart des Européens plongent. Plongent parce qu'ils s'épuisent, moi y compris.
À côté de cette pression à la performance, Valérie Renaudin apprécie la facilité avec laquelle des moyens sont mis en œuvre pour mener à bien des projets. La vision de l'échec qui n'en est pas un, qui est juste une tentative qui permet de rebondir, et l'absence de différence de respect en fonction de la hiérarchie. Tout le monde est traité de la même façon. Son départ de Calgary en 2012 se fait surtout pour des raisons familiales, avec une offre d'emploi dans la fonction publique à l'université Gustave Eiffel. Mais ça s'est joué à peu de choses.
Donc, je suis venue passer le concours. Et puis, j'étais classée première sur le concours de chercheur. Et ensuite, le système de la fonction publique fait qu'à l'époque, je devais rentrer. Et au cours de la première année de ma carrière, on évaluait quelle est la quantité de mon passé qu'on allait reconnaître pour ma gratification. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. C'est avec le parcours que j'ai, ben, j'avais déjà eu plusieurs brevets, enfin, c'était juste pas possible. Comment je peux à ce point-là être incohérente avec moi-même? J'ai bataillé pendant des années et des années pour arriver à une certaine réussite, une certaine reconnaissance, tout en ayant aussi du plaisir à mon activité, etc. Mais comment je pouvais avoir vécu tout ça? Et puis tout d'un coup, accepter de revenir dans des conditions où je disais, ben, finalement, tout mon passé, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai construit, ben, y a un moment quelqu'un dans un processus qui va se permettre de dire si ça vaut quelque chose ou si ça vaut un tiers de ce que ça vaut ou un quart ou un demi ou la moitié. J'ai dit c'est juste pas possible. Et là, la présidente de l'université à l'époque s'est dit ce serait bien qu'on fasse quelque chose pour que Valérie puisse quand même arriver chez nous parce que peut-être que ça nous fera du bien aussi d'avoir ce genre de réflexion et de choses qui se passent. Donc il y a plusieurs personnes qui ont décidé à ce moment-là de me filer un coup de main. Et j'ai réussi à avoir la reconnaissance de mon parcours, plus un aménagement sur la date d'arrivée qui me permettait de terminer correctement mon contrat au niveau international. Il était hors de question qu'un top 3 mondial, je lui claque la porte au nez.
Vous avez donc eu un parcours professionnel riche jusqu'ici, dans 3 pays différents, où vous avez embarqué votre famille à chaque fois. Quelle importance a le travail dans votre vie? Quelle place prend-il?
Alors, en ce qui me concerne, il a une place importante, même très importante. Parce que d'abord c'est comme ça que j'ai grandi et ensuite c'est finalement un peu ça qui nous a permis nous de vivre autant d'expériences diverses et variées dans notre vie, donc qui nous a amené un peu partout à découvrir autant de pays, de mondes. À chaque fois le travail moi m'a permis d'aller explorer des tas de choses parce qu'il faut quand même des sous pour pouvoir faire tout ça, et donc il fallait le financer. Le travail dans lequel je suis actuellement, c'est celui qui m'offre la plus grande flexibilité au niveau des amplitudes horaires et des semaines de vacances. Je fais partie de ces gens ici qui, chaque année, consomment pas toutes leurs semaines de vacances. Pas parce que je ne veux pas, souvent ici, les gens le perçoivent comme « Ouais, mais c'est n'importe quoi, t'as qu'à les utiliser. » Non, c'est juste que, ayant été dans des systèmes avant, où par exemple, j'avais que 15 jours par an, comment on peut passer de 15 jours à 7 semaines ? Pareil, lorsque on souhaite, et moi c'est quelque chose que je fais ici au laboratoire, avoir une visibilité, un positionnement international, on ne peut pas, 7 semaines par an, dire « Ah ben non, il n'y a personne qui bosse. » Parce que sinon, on va tomber dans une catégorie qui nous décrédibilise sur un marché international. Ici, c'est la plus grosse amplitude que j'ai jamais eue en termes de gestion de vie professionnelle, parce que j'ai cette capacité, du coup, à être disponible pour, beaucoup plus pour les enfants. En fait, ça me plaît beaucoup la flexibilité que j'ai ici. Ce qui me manque vraiment ici, c'est l'efficacité. Je considère perdre énormément de mon temps dans des tâches sur lesquelles ma valeur ajoutée, c'est zéro. C'est des tâches de millefeuille, d'administratif, de gestion, comme on entend beaucoup, hein, de gestion de la recherche, de gestion du travail, de reporting. On a une lourdeur, une inefficacité à l'action qui est juste hallucinante. Je pourrais sans problème avoir beaucoup moins de flexibilité, d'amplitude horaire, si c'était pour gagner en autonomie fonctionnelle, en efficacité d'action, en capacité à se réjouir aussi. Moi, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc qui me sidère. C'est à quel point le monde du travail français est quand même très privilégié, enfin, moi, par rapport à ce que j'ai vu hein, quand j'étais dans les pays où j'étais avant, que ce soit Chine, Suisse ou Canada, globalement très privilégié parce que justement, il y a cette amplitude. Il y a aussi un autre privilège, je trouve, et ça, je l'apprécie, qui est qu'on a le droit d'amener un peu de ses problèmes personnels au travail. C'est-à-dire que si on ne va pas bien dans sa vie perso et que ça se répercute par un peu moins de performance au travail, c'est pas grave, c'est largement acceptable en fait dans le système français. Pareil, si j'avais moins de flexibilité en amplitude horaire, pour plus d'enthousiasme et de capacité à transformer ce qui arrive quand quelque chose de positif pour rebondir, ça aussi, volontiers, je lâche un peu de l'amplitude horaire pour gagner sur ces éléments-là. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on vit, je disais ces tiraillements, ces oppositions du système qui finalement sont compliquées à vivre, je cherche de plus en plus à mettre en place des à-côtés qui compensent, enfin des à-côtés qui vont chercher à calmer ces antagonismes ou ces conflits. Donc ça fait 2 ans que je me suis mis dans le jardin à fond la caisse. Je cherche plus à compenser, à avoir un équilibre par rapport au travail qui peut-être diminue un peu plus sa place dans ma vie aujourd'hui. C'est loin de la diminuer beaucoup, hein, mais ça la diminue un petit peu.
Et vos enfants, qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre à propos du travail ?
Alors, j'ai un garçon et une fille. Le garçon qui est en pleine adolescence, actuellement, se pose pas trop de questions. On pensait justement qu'il allait beaucoup s'en poser, mais là, actuellement, il se pose pas vraiment trop de questions. Par contre, il va tenir le même discours que sa sœur, c'est « Maman bosse beaucoup ». Des fois, moi, j'ai du mal à raccrocher un petit peu quand même avec leur génération, parce que je pense que j'ai quand même grandi, moi, dans une génération où l'épanouissement personnel, enfin, qui m'a été transmis, passait par le travail, hein. Alors qu'eux, ils ont quand même une vision, je pense, qui est assez différente, hein, qui consiste à se dire que le travail, finalement, c'est un bout dans une vie, et c'est pas forcément celui qui va amener le plus d'épanouissement. Je pense que ce que j'aimerais leur transmettre, moi, c'est qu'un truc que j'ai fait et que je pense que ce serait bien qu'ils puissent refaire, c'est qu'ils fassent ce qu'ils aient envie. Il n'y a pas besoin d'être dans un moule avec un cursus, et que si leur envie leur prend de faire une formation pour faire boulanger, et qu'après ils décident d'être financiers à Wall Street, qu'ils le fassent. Qu'il n'y a pas un cursus qui est déjà écrit et qu'il faut qu'ils évoluent en fonction de leurs envies. Ça, c'est vraiment ça que j'aimerais qu'ils puissent passer. Et puis après, ben, que le travail, c'est quand même quelque chose qui est un peu important pour pouvoir s'offrir un certain confort de vie aussi. Croire qu'on va y arriver sans rien faire, pour moi, c'est une utopie.
Si demain, on vous rappelle à Calgary, vous y retournez ?
Ce serait juste trop tôt. Les enfants sont encore dans la situation maintenant où ils ont besoin de moi pendant, 3 à 5 ans. Mais une fois qu'ils attaqueront les parcours post-bac, oui, on est capable de faire partir. pour revivre, revivre une certaine aventure, une certaine frénésie, un certain dynamisme. C'est aussi aujourd'hui, moi, j'ai pas trouvé de milieu qui m'offre l'équilibre des deux, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas un environnement qui serait capable de gérer à la fois ce positivisme, cette frénésie, et puis en même temps cette flexibilité horaire, etc. On trouve pas bien encore ce compromis dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc le vivre sur une période, why not?
Pour prendre de la hauteur sur la notion même de travail, on a interrogé Didier Terrier, un historien du travail, qui relativise la place qu'occupe le travail dans toute notre vie.
On a pu calculer qu'aujourd'hui, le temps de travail représentait en tout et pour tout 13% du temps de notre existence. 13%, ça peut sembler étonnant, mais attention, ça veut dire que déjà l'âge auquel on commence à travailler n'a cessé de reculer. Donc on peut déjà compter que pendant, mettons, entre 22 et 25 ans, on ne travaille pas. Et ensuite, l'âge auquel on a cessé de travailler a reculé pendant une bonne partie du XXe siècle. Ce qui veut dire que si on y ajoute la réduction de la durée horaire du travail et l'invention des congés payés, eh bien on arrive à 13%. Ça fait peu, et pourtant, dans notre esprit, ça fait beaucoup. Il n'en était pas du tout de même lorsque l'on travaillait dans les sociétés pré-industrielles, voire la société industrielle du 19e siècle, et tout ceci avant 1919 et la loi des 8 heures. Absolument pas. Ça signifie que travailler, c'est à la fois toujours quelque chose qui est central dans notre existence, et en même temps, c'est quelque chose qui pourtant a laissé place à quantité de temps autre, à commencer par le temps de la famille, le temps des loisirs, lesquels se sont considérablement, allongés au fil de l'année.
Avant d'évoquer l'histoire du travail, pour vous, il est nécessaire de parler du travailleur.
Comment désigner ceux qui travaillent? Les frontières sont extrêmement mouvantes entre ceux qui pourront se qualifier de travailleurs et ceux qui ne le feront pas. Prenons un cas concret. Un ouvrier qui arrive à se hisser dans la catégorie des cadres. Je doute fort qu'il continue à se qualifier, lui, de travailleur. Ensuite, quel est le champ de ceux dont on peut dire qu'ils travaillent? Est-ce qu'un soldat travaille? Est-ce qu'une nourrice travaille? Est-ce qu'une mère porteuse travaille? Est-ce qu'on va se qualifier de travailleur quand on est dans le secteur tertiaire aussi facilement que quand on est dans le bâtiment? Peut-être que la manière la plus simple pour avancer, c'est peut-être d'emprunter le lexique des juristes. Si j'en crois un juriste éminent comme Alain Supiot, il faut distinguer, à propos du travail, l'œuvre et le labeur. D'un côté, ceux qui vont œuvrer, ce sont ceux qui vont pratiquer une tâche pour laquelle ils sont très qualifiés et qu'ils auront le sentiment d'accomplir. Tandis que ceux qui en quelque sorte vont travailler, ce sont les gens de peine, ce que l'on appelait à l'époque moderne des gens de bras, qui n'ont pas de qualification particulière et que l'on va désigner bien souvent par le temps qu'ils passent à effectuer une tâche. Au XIXe siècle, ou bien encore au XVIIIe, etc., être un journalier, c'est être embauché au jour le jour, au même titre que le manouvrier du XVIIe et XVIIIe siècle, c'est celui qui travaille avec ses mains parce qu'il n'a que ses mains et sa force musculaire comme seule richesse. Le travailleur, ça sera peut-être d'abord celui qui sera en priorité, dirons-nous, celui qui sera contraint, celui qui effectuera une tâche relativement pénible, celui qui sera véritablement sous les ordres de quelqu'un d'autre. La meilleure des preuves que ce travail n'est pas une partie de plaisir, c'est que la première acception du mot « travail » au Moyen-Âge désigne la parturiente. Une femme en couche est une femme en travail.
Vous nous avez dit que l'histoire du travail était très complexe et qu'on ne pouvait pas la résumer en quelques phrases, mais pouvez-vous nous donner quelques moments clés de cette histoire?
On a vécu très longtemps avec des modèles canoniques quant à l'évolution de l'histoire du travail. Si on fait un micro-trottoir et qu'on demande aux gens comment était organisé le travail au Moyen-Âge ou bien à l'époque moderne, au 16e, 17e et 18e siècle, ils vont nous répondre, pour une grande majorité d'entre eux, que ce travail était organisé en corporation, c'est-à-dire avec des maîtres, des compagnons et des apprentis. Si on demandait aux mêmes personnes ce qui caractérise la révolution industrielle, ils répondraient l'usine, concentrée, mécanisée. Et puis, en parlant du 20e siècle, au moins jusqu'à un passé récent, je pense qu'il ferait référence à de très grands établissements comme Boulogne-Billancourt et les usines Renault. Ce qui importe, c'est que ces grands modèles canoniques ont toujours, comment dirais-je, laissé place à énormément de diversité. Et pourquoi ont-ils eu la vie dure ? Pour des raisons qui sont toujours des raisons idéologiques. Il y a un moment important, c'est la période 1890-1910. C'est un moment essentiel dans le monde du travail. Parce qu'il y a quantité de lois qui sont prises sur la durée du travail, sur les accidents par exemple. C'est le moment des premières conventions collectives, et puis des premiers systèmes de retraite, etc., etc. Et on peut comme ça multiplier les exemples. Il y a un tournant à ce moment-là, mais n'oubliez pas que le climat social au début des années 90 est extrêmement tendu. C'est encore une période où on croit au grand soir, c'est-à-dire à la grève générale qui permettra au monde du travail de prendre le pouvoir. Il y a une peur des possédants qui est considérable à la fin du siècle, compte tenu de la puissance du mouvement ouvrier. N'oubliez pas qu'en 1890 est initiée la grève le 1er mai. Tous les 1er mai, on se met en grève. C'est le début de la revendication de la loi des 8 heures. Oui, les rapports sociaux se tendent parce que le monde ouvrier, notamment, arrive à maturité. C'est la création de la CGT. C'est la création d'un parti socialiste avec deux branches, hein, la branche révolutionnaire avec Jules Guesd, la branche réformiste avec Jean Jaurès. Il ne faut pas oublier que c'est cette aberration qu'est la guerre 14-18 qui va mettre comme un couvercle au-dessus de tout ça. Qu'est-ce qui va pousser à la revendication ouvrière ? C'est l'accès à la société des loisirs. À un moment donné, effectivement, il y a un effet dialectique entre le besoin de loisirs, de famille, et le besoin de travail. La vraie rupture, c'est quand même 1936. Et la vraie rupture, c'est pas la diminution du nombre d'heures au quotidien, c'est les 15 jours de congés payés. Qu'on puisse être payé 15 jours à ne pas travailler, c'est une révolution mentale. Ça ne s'était pas vu dans les siècles antérieurs, jamais. Il faut quand même que vous mesuriez à quel point, pour les classes possédantes, ça a été un traumatisme.
Pour être complet sur l'histoire du travail, il faudrait des heures de discussion. Ce que l'on peut retenir, c'est que le travail est en perpétuelle évolution, ainsi que la façon dont on le voit. À une époque, il était bien vu d'être rentier et de ne pas travailler. C'est devenu l'inverse depuis l'entre-deux-guerres, et aujourd'hui, de plus en plus de gens se questionnent sur le sens du travail et le temps qu'ils y passent. Malgré tout, depuis toujours, certains ne se posent pas de questions, ils n'ont pas le choix, parce que travailler, c'est une question de survie. Djamira Diallo a 22 ans, il vient de Guinée, il est arrivé en France le 30 septembre 2018 et il est demandeur d'asile. Il attend toujours la réponse de l'État français pour obtenir le statut de réfugié. En Guinée, il a été à l'école primaire, puis à 12 ans, il a commencé un apprentissage dans la maçonnerie. Il a quitté son pays à 16 ans, il est passé par l'Algérie et la Libye où il a travaillé quelque temps comme maçon, puis il est arrivé en Europe via l'Italie. Après avoir déposé sa demande d'asile à l'Office français pour les réfugiés et apatrides, il a dû attendre 6 mois pour obtenir une autorisation de travailler délivrée par la préfecture.
Mais là aussi, ils ont changé le système parce qu'avant, quand j'arrive avec mon récépissé, ils vont mettre les tampons pour que je dois travailler. Mais ça aussi, ce n'est pas n'importe quel travail, ce soit dans la maçonnerie ou dans l'agriculture. En général, le travail que les Français n'aiment pas. Et maintenant, ils ont changé le système, maintenant, ce n'est pas les tampons. Et je dois aller chercher le travail. Si je trouve le travail, c'est le patron qui va appeler à la préfecture pour dire que je vais employer lui. Mais c'est très, très difficile parce qu'ils allaient dans le plusieurs sentiers, ils se sont dit qu'ils n'ont pas de temps pour ça. Et j'ai déposé mes dossiers à une boîte d'intérim. Et quelqu'un m'avait appelé, il est à Avignon de Bretagne. Mais ça aussi, ce n'est pas tous les jours. Je travaille qu'une fois par semaine. Comme je ne trouve pas d'autre travail, je préfère de faire ça. Dans la ferme, on fait du lait, c'est bio. Et moi, je m'en occupe des vaches. Parce qu'à l'air, là, les vaches sont à l'intérieur. Il fait très, très froid. Il n'y a pas assez d'herbes. Après, je nettoie la machine. Je donne les poules à manger.
Jamira perçoit 200 euros par mois de l'allocation pour demandeur d'asile, plus le SMIC horaire pour sa journée de travail hebdomadaire dans la ferme.
Comme là où je travaille pour le moment une fois par semaine, ça ne peut pas me suffire parce que je ne peux pas s'en sortir avec ça. Et parce que moi, je suis logé comme le familier qui, si je veux offrir à leur maman des cadeaux, je ne peux pas parce que je n'ai pas de l'argent.
L'objectif de Jamira, s'il obtient son permis de séjour, est de faire une formation pour devenir routier.
Et pour moi, on ne peut pas vivre sans travailler parce que quand on travaille, on peut gagner de l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui s'occupe de toi, c'est toi-même qui s'occupe de toi. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit, voilà, quand je ne te donne pas l'argent, tu ne peux pas te nourrir. Moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée de vivre en RSA. Je pense que c'est un peu humiliant. Parce que selon ce que me disent mes amis, si quand tu es nourri par RSA, tu es considéré comme tu es faible, tu ne veux pas travailler. Et moi, je pense que si on pense à notre futur, quand on travaille, lorsqu'on est capable de travailler, on est jeune, on peut organiser notre futur. Parce que lorsqu'on est vieux ou vieille, on ne peut pas travailler. Il faut comment on peut nourrir. Il faut travailler avant d'être vieux ou vieille. Parce que si on travaille, on contribue, je pense qu'on a notre place. Parce que personne ne dit pas que vous êtes là, vous attendez l'aide de l'État. Et vous ne faites rien, tu vois.
Jamira peut travailler légalement en France, ce qui n'est pas le cas d'Anis, 33 ans, tunisien, qui est arrivé en France le 10 avril 2015 et est sans papier. Diplômé d'informatique, il ne trouvait pas de travail en Tunisie où il vivotait de petits boulots. Il avait envie de voyager et quand il a pu, il a pris un visa pour la Grèce avant d'arriver à Nantes où vit sa sœur.
Pour trouver de boulot, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne, ça... Il y a des amis dans les assos, ils m'ont conseillé d'aller au marché. C'est ça le seul boulot ici en France pour quelqu'un qui n'a pas de papier. Mais c'est pas facile même de trouver au marché parce que je me réveille le matin, ça fait un mois ou deux mois, je me réveille et je trouve pas de boulot, je rentre. Je me réveille, je trouve pas de boulot, je me rentre. J'ai résisté pour trouver un travail, oui, pour trouver, même au marché. Hein. Malgré qu'ils ne payent pas bien là-bas. C'est pas de bonnes conditions de travail là-bas. Mais quand tu travailles avec quelqu'un 2-3 jours, on dirait qu'il t'embauche. En blague, c'est pas chaque semaine tu travailles avec lui. Les conditions de travail là-bas, il n'y a pas le respect. Tu dois être mal payé. À 4 heures, je me réveille. Je commence à 4h30 du matin jusqu'à 15 heures. Si tu as l'habitude de travailler avec lui et tu es ancien, tu prends 30 euros. 25 euros. Tu peux rien faire. Tu peux réagir parce que tu n'as pas le choix. Tu es dans une situation irrégulière. Tu acceptes toutes les conditions. Le maltraitance, le mal payé.
Depuis 6 ans maintenant, sa vie est compliquée, mais il s'accroche parce qu'il n'a aucune ressource.
Après 6 ans de galère, moi, l'essentiel, c'est que je veux travailler dans n'importe quel domaine. Moi, je travaille pour vivre, manger. Même pour manger et habiller, c'est galère. Hein. Il faut économiser, il faut calculer, bien calculer. Aller dans les assos de solidarité pour les prendre un peu de l'aide, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Hein. En plus, c'est un défi pour moi. Parce que je vais réussir, je veux réussir et je lutte pour réussir. Un homme ne travaille pas, c'est grave. On a notre mentalité parce que nous, chez nous, le travail, c'est sacré. Il faut travailler pour vivre, que n'importe la situation.
La seule solution pour qu'Anis puisse obtenir des papiers français et pouvoir travailler, c'est le mariage ou avoir un enfant français. Donc le découragement n'est jamais très loin.
Mais toujours la décision de retourner en Tunisie, elle est dans ma tête. Moi, je recule, j'avance pas. En plus, 6 ans en France, tu retournes comme ça, mais même en Tunisie, tout le monde rigole parce que eux, ils pensent qu'en France, c'est facile d'aller voyager, le travail, l'argent, les femmes, parce qu'eux, ils ne vivent pas ici. Alors, comme moi, quand j'étais là-bas, je pense que oh, dans un an, je travaille plein d'argent, bah, je galère pas. Moi, j'ai regretté que ne pas aller aux gendarmeries parce que mon père il m'a proposé. J'ai dit toute la famille en gendarmerie, j'aime pas, je veux aller en Europe, mais j'ai regretté. Parce que j'ai perdu 6 ans de ma vie comme ça.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Dans l'épisode 2 de cette série, vous découvrirez les témoignages de ceux qui ont fait un choix radical, arrêter de travailler. Ce podcast a été réalisé par Nolwenn Peria. Commentez, écrivez-nous, partagez, réagissez et procurez-vous le magazine des Déviations sur la quête de sens qui sort en décembre pour les fêtes. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et bien d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.